des livres plein les oreilles. Eh bien voilà, j'ai des livres partout autour de moi. Ça veut dire que c'est vraiment le temps de vous partager toutes ces belles lectures-là en compagnie de mes invités. C'est Clotilde Seille qui vous parle et aujourd'hui, je vais avoir le grand bonheur de reparler avec Jeannine Vanier qui va nous parler non pas d'un livre, mais de deux livres. Et puis, après, une entrevue avec Paul Hall. Oui, Paul Hall, à qui on doit Louis Cyr, à qui on doit Le Dernier Tunnel et à qui on doit Les Fantômes de la Sierra Maestra, un livre extraordinaire sur la révolution cubaine. Et puis, durant cette émission, il y aura des rubriques, des chroniques que vous aimez bien, que vous appréciez, du moins je l'espère, comme par exemple une chronique sur ma table de chevet. Il y aura la bande-annonce de la semaine prochaine. Il y aura des nouvelles et des livres. On parlera des nominations québécoises au prix des libraires. Et on finira bien évidemment par quelques titres en rafale. Bonjour Jeannine, comment allez-vous?
Bonjour Clotilde, ça va très bien, merci.
Bon, vous-même. Très très bien, je vous remercie. Ça ne vous dérange pas, Madame Vanier, que je vous appelle Jeannine?
Ben, ça me fait plaisir, au contraire.
D'accord. Il me semble que ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu.
C'est vrai.
Hein, c'est vrai. Oui. Et du coup, eh bien, vous êtes très généreuse et vous m'avez dit, Clotilde, ce n'est pas un, mais deux livres dont j'aimerais partager la lecture. Je vous laisse le soin de nous présenter le premier.
Bon, je crois que je vais commencer avec le violoncelliste sourd par Francis Malka.
Oui, alors Malka, M-A-L-K-A, c'est ça.
Alors, c'est l'histoire au début, quand l'histoire commence, il est adolescent, il a une quinzaine d'années. C'est un grand, déjà il témoigne d'un grand talent de comme violoncelliste, et son professeur, évidemment, lui donne des directives, mais déjà, il a envie d'être plus indépendant, il n'est pas toujours prêt à suivre les directives, mais à un moment donné, il décide de vouloir voler de ses propres ailes. Alors, son professeur lui dit, vous avez beaucoup de talent, vous irez loin, mais peut-être que vous prendrez les mauvais chemins. En tout cas, c'est pas tout à fait comme ça que c'était dit.
Oui, oui, mais oui, c'est ça. On comprend l'idée, Jeannine.
Bon. Alors, il a un de ses amis qui va lui servir d'agent pour lui trouver des endroits pour aller faire des concerts. Puis, il commence graduellement là, dans des endroits pas trop publics. Là, puis de plus en plus, sa popularité se fait. Puis il va dans des salles plus combles et tout ça. Et un jour, il est dans une salle où il y a beaucoup de projecteurs.
Puis,
je ne sais pas trop comment ça a pu se produire, mais à un moment donné, les gens commençaient à murmurer dans la salle pendant qu'ils jouaient. Puis on voyait les projecteurs qui semblaient comme bouger, balancer, je sais pas trop. Il y en a un qui est tombé sur lui, qui l'a frappé, puis il est tombé par terre. Et puis il y a d'ailleurs un morceau du lobe d'oreille qui lui a échappé. Et puis il n'entendait plus.
Il devient sourd. À partir de ce moment-là, alors bon, pour un musicien, on sait que...
Alors, le temps se passe, évidemment, il voit des médecins, tout ça, puis il semble que c'est irrémédiable. Puis pourtant, il s'ennuie de son violoncelle, à un moment donné, ça lui manque, puis il va le chercher. Il l'a baptisé Giuseppe, son violoncelle.
Ah oui?
Oui. Et puis, alors, il le met sur ses genoux, puis commence à... Puis là, il se rend compte que la vibration, son corps saisit la vibration des sons.
Ah, OK.
Alors, il le rapproche, puis de plus en plus, puis là, déjà, ça lui donne, je sais pas, juste pour ça, là, il va s'en servir comme ça, puis il va commencer graduellement à entendre.
Ah, OK. Donc, il va retrouver l'ouïe petit à petit. Bon.
C'est ça. Si bien qu'un jour, il appelle son ami, puis il lui dit, ben écoute... Je ne suis plus sourd, j'entends très bien, je peux jouer, puis tout ça.
Ah.
Tout ça. Alors, son ami Orme, il lui dit, c'est formidable, mm-hmm. puis, joyeux. Puis il dit, écoute, il y aurait plusieurs options qu'on pourrait envisager, mais en tout cas, tu peux reprendre ta tournée de concert, mais est-ce que les gens vont croire comment ça se fait? Puis là, tu vas avoir peut-être des médecins qui vont vouloir te contacter. En tout cas, tu vas avoir peut-être des difficultés de ce côté-là. Là. Ils vont se demander si tu n'avais pas joué un jeu avant.
Oui.
Ou bien tu continues pas, tu laisses tomber. Ou bien il y aurait quelque chose, moi, que j'envisage, qui est formidable, c'est que on ne saura pas que tu as recouvré
la vue, l'ouïe. Ah!
Et puis, là, tu vas jouer.
Oh, mon Dieu!
Là, les gens, ça va être merveilleux. Ils vont dire comment il fait. Puis,
oh là 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 là!
Quel piège!
Hein? Autrement dit, il va bâtir toute sa célébrité sur le fait qu'il est sourd alors qu'il ne l'est plus.
Puis là, les gens vont l'épater, puis tu vas faire de l'argent.
Ben oui. Et là, on ne dira pas ce qui se passe de trop. Parce qu'il faut que nos auditeurs aient envie d'aller chercher le bouquin.
Alors,
mais la prémisse est formidable.
Oui, c'est ça. Mais le malheur s'en vient petit à petit.
Oui, hein? J'imagine.
Parce que il va dans différents endroits, comme ça, dans différentes villes. Et puis, à un moment donné...
Vous n'allez pas trop nous en dire, là?
Non.
Non? Ah bon?
Alors, il est à l'hôtel, et puis ça commence, là. Bon. À un moment donné, il se rend compte qu'il y a eu un vol dans sa chambre, mais il a couru à son violoncelle, puis tout semblait normal, en tout cas.
Oui.
Mais rien n'avait été volé, probablement parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'il est arrivé, en tout cas.
Oui.
Et en tout cas, ça commence comme ça, mais j'engage les gens à le lire.
D'accord.
D'accord.
Oui. Alors, il nous reste quelques minutes et je voudrais aussi que vous nous parliez d'un autre livre que vous nous avez suggéré. C'est « L'ultime liberté » de M. Michael F. Ryan, R-Y-A-N. Dites-nous en quelques mots.
C'est ça. Et il est question... Et ça se passe en 1989. Mm-hmm. L'histoire commence à San Francisco. Au moment du tremblement de terre qui avait eu lieu à ce moment-là.
Oui, on s'en souvient bien. Oui.
Et puis, au dos du livre, on dit « Ce tremblement de terre à l'extérieur, pendant ce temps-là, il y a un chroniqueur qui a vu à l'intérieur un tremblement aussi, quelque chose en tout cas qui est en train de tout se défaire dans sa vie.
Dans sa vie.
Oui. Le chroniqueur en question s'appelle Roger Murphy. Murphy.
D'accord.
Et puis, son patron est mécontent de lui parce que il était célèbre, il écrivait beaucoup d'articles, mais là, il commençait à se monter la tête, comme on dit.
Oui.
Et puis là, il arrive en retard. Puis,
il pétait les plombs, quoi, comme on dit. de
et
façon
puis, ses articles étaient très percutants, très critiques, là, même assez. Il pouvait s'attirer, en tout cas, des bosses, comme on dit.
Oula.
Et puis le patron a dit, écoute, là, ça marche pas, là. Y a beaucoup de gens là, qui commencent à convoiter ta place. Et puis, à part ça, son ami, sa femme ou sa blonde, pas trop l'a quitté.
Bon.
Alors là, ça commence à se
détériorer. Sa vie se détériore.
Et puis, chose étrange, un fait qui est arrivé pendant ce temps-là, il reçoit un appel pour se rendre au pont de la Marina. En tout cas, il y avait, dans San Francisco même, là, il y avait un département, où je sais pas trop, qui s'appelait la Marina.
Oui.
Alors, il veut que... Ce type-là veut qu'il le rejoigne, Roger, au pont.
Oui, oui.
Et puis, il veut raconter son histoire avant de se suicider. Puis il veut que ça soit publié.
Et son histoire, alors, c'est laquelle? C'est quelqu'un qui a vécu de tristes expériences, hein?
Oui, mais en fait, on la saura pas vraiment trop, là.
OK.
Roger se rend au pont et puis... Là, heureusement, il y a des policiers qui surveillent, hein, mm-hmm. qui sont à l'arrière, là, qui ne okay. se montrent pas trop. Et puis, là, il se rend, mais il est obligé. Il dit approche-toi, approche-toi, mais là, il est près de l'étendue d'eau, là, en tout cas.
Ouais.
Et puis, il n'est pas trop brave, notre chroniqueur.
OK, notre Murphy,
il
là.
Il n'est pas très à l'aise.
Non.
Alors. Mais finalement, à force de parler, puis le type en question se réfléchit, puis enfin, il semble vouloir céder. Alors, les policiers arrivent, puis l'entourent, puis mm-hmm. Juste à temps, parce que là, s'il s'est acheté à l'eau, là, je ne sais pas ce que l'autre aurait fait, en tout cas. Alors là, bon. c'est comme une sorte de d'avertissement, j'ai mm-hmm. l'impression qu'il reçoit.
Okay.
Alors là, son patron lui dit, écoute, là, je vais t'envoyer à Vienne. Tu vas aller faire un article sur un professeur très célèbre, en tout cas, il est très populaire. Il s'appelle Viktor Frankl, et en fait, c'est un personnage qui a existé vraiment. Là.
C'est, mm-hmm. Oui, ça, c'est ça, parce que tout le livre est basé beaucoup sur l'expérience de ce docteur Frankl.
C'est ça.
Bon, et écoutez, on va juste te dire en deux mots, Janine, parce que le temps oui. file, malheureusement. Et voilà, enfin bon, vous connaissez un petit peu l'émission.
Oui.
Alors, et ça passe toujours très vite, mais on peut juste te dire que cet homme-là a vécu une expérience douloureuse
oui.
dans les camps de concentration.
Est-ce que je peux mentionner le livre qu'il a écrit, qui l'a rendu célèbre?
Absolument, Janine.
Oui. Découvrir un sens à sa vie.
OK. Découvrir un sens à sa vie par le docteur Frankl. Est-ce qu'on sait si ça existe au SQLA ou à l'INCA?
Ça, je ne le sais pas, par exemple.
Ah, bon, bah, écoutez, j'irai vérifier ça. Hein. Donc, bon. Donner un sens à sa vie.
Découvrir d'accord. un sens à sa vie.
Ah d'accord, découvrir. Ok Janine, je vais être obligée de vous laisser là-dessus, mais honnêtement, voilà deux belles lectures que vous nous avez proposées ce matin. Le violoncelliste sourd de Francis Malka et L'ultime liberté de Michael F. Ryan, et dont on ne dévoilera évidemment pas la fin. Alors on invite les gens, hein, Janine, à aller se procurer ces deux livres-là.
Parfait.
Je vous remercie beaucoup et je suis contente de vous avoir entendu à cette émission. Bonne fin de journée, Janine.
À vous aussi, là.
Au revoir. Et je suis tout émue maintenant d'avoir au bout du fil Paul Hall. Bonjour, Monsieur Hall.
Bonjour à vous.
Comment allez-vous d'abord?
Je vais très bien.
Bon, mais écoutez.
Bien. Sentiment du devoir accompli, comme on dit.
C'est vrai, ben oui, surtout avec votre petit dernier, là. Hein?
Oui, le gros dernier.
Le gros dernier, ouais, quand même. Hein?
Il a subi de longs entraînements, un entraînement intensif, ce qui lui a permis de croître, j'espère, en sagesse, mais du moins authentiquement rendu, j'espère, cette saga,
oui.
si je puis exprimer oui. ainsi, de Cuba et de sa révolution des années
oui.
50.
Exactement, parce que c'est vraiment de cela dont nous allons parler. Paul, vous avez voyagé beaucoup, vous avez écrit une multitude de livres, d'aventures humaines. Je pense à Louis Cyr, je pense au dernier tunnel, mais je pense aussi à un livre sur le Japon, un livre sur les Vikings.
L'aventure de la saga historique.
Voilà. Alors pourquoi Cuba pour marquer finalement vos 40 ans de vie littéraire?
D'abord, une hésitation. Je dois dire que ce n'est pas apparu d'évidence que je ferais Cuba. J'avais été quelques fois à Cuba
mm-hmm.
et j'avoue, en toute candeur, que j'y suis allé comme des milliers de Québécois
oui.
et de Québécoises en touriste.
Oui, oui.
Au fil du temps et de ces déplacements à Cuba, j'ai quand même découvert, le vieux renard fouilleur, historien à 6 heures et tout, a découvert qu'il y avait à Cuba, outre un peuple fascinant, il y avait quand même un moment de son histoire,
ouais.
qui a marqué le 20e siècle, et c'était la révolution cubaine.
Exactement.
Et à partir de ce moment, bien sûr, le choix a été fait. J'avais eu l'occasion, en 87 par exemple, à la télé, pour peu qu'on prenait une télé en noir et blanc à Cuba, d'entendre Fidel Castro et ses longs discours fleuves et tout. J'avais vu Fidel Castro entrer au moment d'un match amical, une de ces rares rencontres entre les États-Unis et Cuba, un match amical de volley-ball entre l'équipe nationale américaine et l'équipe de Cuba, et M. Castro faisant son entrée alors que le match était égal 2-7 partout, et cette immense ovation dans le hall de sport de La Havane. Et bien sûr, il y avait une fascination autour du personnage qui est allé bien au-delà des frontières de l'île de Cuba, transporté par Jean-Paul Sartre dans les années 60 lorsqu'il a commis de nombreux articles très favorables à la Révolution, à l'époque en tout cas, dans France ce soir. Et tout ça, ajouté évidemment la connaissance que j'avais de Ernest Hemingway, enfin, pas du personnage, mais de son œuvre, je me suis dit, voilà, les étoiles sont maintenant alignées, planètes sont alignées selon l'expression consacrée. Allons-y.
Alors, commençons.
J'ai donc choisi de faire Cuba et j'ai eu 4 ans.
Alors, ça s'appelle Les fantômes de la Sierra Maestra.
Oui.
Alors, parlons d'abord de l'époque. On est entre quelle année et quelle année?
On commence l'histoire en 1949. Bon, en tout bon romancier, je me suis dit, il faut quand même tourner autour d'un événement. Et j'ai choisi le jour anniversaire des 50 ans de Ernest Hemingway. Ernest Hemingway étant reconnu comme un fêtard de première. Et ça se passe donc le 21 juillet 1949, au bar de la Floridita, qui est maintenant mondialement connu, ce bar de la Havane. Et ça se termine le 2 janvier 59, donc on parle de 10 ans. Cette histoire donc couvre 10 ans. Le 2 janvier 59, qui est la journée de l'entrée de la 8e colonne de Che Guevara à la Havane, synonyme donc de la journée 1 de la révolution cubaine.
Alors vous dites d'emblée, moi je ne suis pas là pour être pour ou contre, je dis juste là pour dire que cette révolution était nécessaire.
Oui, j'affirme encore aujourd'hui, 60 ans plus tard, que cette révolution était absolument nécessaire. Au vu, écoutez, ça va même au-delà de la statistique, mais les statistiques sont horribles. Lorsque l'on regarde simplement le parcours de la succession de présidents de Cuba, en passant de Machado, en passant par Grau Martín, et d'autres, pour en arriver évidemment à ce très tristement célèbre Fulgencio Batista. On se rend compte que c'est une horreur. D'abord, c'est le régime de la mainmise entière des Américains sur l'économie cubaine, de bout en bout, si je puis dire ainsi, autant les communications que les transports, que la construction, que tout le secteur immobilier, que les infrastructures, la production du sucre, tout ça est sous la férule américaine, au détriment, bien entendu, du peuple cubain, qui souffre terriblement de tout ça, puisque l'ensemble des capitaux sont donc exportés vers les États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la terrible condition dans laquelle se trouve le peuple cubain, c'est-à-dire notamment les paysans, pour un, et les travailleurs, pour deux. Ces gens-là, à 60%, sont analphabètes. Les conditions d'hygiène, donc les conditions de salubrité, ou plutôt d'insalubrité, sont répandues d'est en ouest de l'île de Cuba. La mortalité infantile, elle est ce qu'elle est. La répression du régime Batista, de la dictature, est terrible au niveau d'abord des exécutions, des assassinats. La collusion avec la pègre, totalement dominée par la pègre américaine, en fait, Meyer Lansky et ses sbires, qui contrôlent la prostitution partout sur l'île de Cuba, font que cet ensemble, si vous voulez, donne le ton à toute personne qui se respecte le moindrement. Et je parle ici de Fidel Castro et de son premier noyau de révolutionnaire ou de pré-révolutionnaire, qui étaient des étudiants, quelques-uns, de l'Université de La Havane. Et les autres étaient de petits travailleurs, des gens qui faisaient des trucs miteux à gauche, à droite, pour survivre jour après jour, mais qui avaient en eux le cœur, si vous voulez, de ne pas succomber ou se laisser simplement déchirer par ces conditions sans au moins lutter. Et c'est ce qui a donné ces 150 premiers révolutionnaires qui ont eu l'audace de faire cette attaque terriblement ratée, mais quand même qui est considérée à Cuba comme le jour 1 de la révolution. C'est le 26 juillet 1953 où ils ont attaqué la fameuse Moncada à Santiago de Cuba avec un sort tragique quand même, 90 tués, les autres mis en prison, etc.
Ça, il y a toujours du sang qui coule. Mais là, je voudrais qu'on parle des personnages. Bon, vous avez mis en scène ces quatre personnages absolument incroyables que sont Hemingway et sa truculence, disons-le comme ça. Bon, évidemment, Fidel Castro et sa stature. Et puis, il y a le Che qui arrive un petit peu plus tard, ce personnage timide, parce que c'est ce que vous dites, qu'il était finalement timide et alors qu'il souffre d'asthme terriblement. Et puis, bien évidemment, et alors là, ça pour moi, c'est la grande découverte, c'est Sartre là-dedans qui débarque. D'ailleurs, ça ne lui tente pas du tout. Il n'a aucune envie d'être là, lui. Quand il arrive là, il dit « Oh, les carrés ».
Sartre, ce qu'il faut savoir, on sait beaucoup, beaucoup de choses de Sartre qu'on savait moins. C'est qu'il avait une maîtresse américaine, Dolores Vanetti, dans les faits d'ailleurs, et au vu de Simone de Beauvoir, qui était au courant de cette liaison. Je voulais à tout prix faire cela, parce que a posteriori, Sartre jouera donc un rôle après la Révolution, quand il reviendra à Cuba. L'événement dont je parle se passe en 49, donc l'année anniversaire de Ernest Hemingway, et à son corps défendant, bien sûr, Sartre se retrouve à la résidence de Ernest Hemingway, qui est en périphérie de La Havane, plus précisément à San Francisco de Paula, où se trouve la fameuse Finca Vigía, qui est tout à fait... Et j'encourage les gens, d'ailleurs, à aller visiter la Finca, puisqu'elle est aujourd'hui partie du patrimoine national cubain. Et vous allez là et vous retrouvez une finca qui est tout à fait comme elle était à l'époque. Et on serait en lieu de s'attendre que quelqu'un vienne nous dire « Monsieur Hemingway est sorti, il sera de retour à
Cuba ». Oui, c'est vrai.
C'est vraiment à ce point.
Oui, absolument. Et alors, je précise, parce qu'il y a entre autres des rencontres absolument mémorables, comme celle entre Sartre et Hemingway. Toutes les rencontres entre ces personnages principaux du livre ont réellement eu lieu.
Absolument. Oui, absolument. J'ai quand même... c'était peut-être la partie la plus difficile.
C'est ça.
Faire un roman, c'est une chose. Quand on fait appel strictement à notre imaginaire, on crée. Bon, et même on peut y mettre parfois des situations absurdes en mettant ça sur le compte du roman où, dit-on, tout est permis. Par ailleurs, dans le cas du roman historique, il y a une règle d'or. D'accord, vous pouvez utiliser les trucs du métier du romancier, c'est-à-dire de créer l'intrigue, de laisser le lecteur l'envoyer parfois sur des fausses pistes, l'amener dans un registre d'émotion, bien sûr, supérieur. Mais dans le cas du roman historique, il y a aussi l'autre plateau de la balance, c'est celui de la crédibilité et de l'authenticité des faits qui doivent être documentés.
Et oui. Et alors là, vous avez travaillé, dites-donc. Hein?
Il faut travailler. Il faut rencontrer d'abord les gens à Cuba. Mm-hmm. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas aussi pire qu'on tente bien de vouloir le laisser croire.
Il faut que les auditeurs comprennent bien que, du coup, vous n'avez rien inventé, mais par contre, il a fallu mettre dans la bouche de ces gens-là des dialogues.
C'est là le problème. D'abord, un petit truc que je vais vous révéler. Pour bien faire sentir la chose, il faut connaître le langage corporel de chacun. Ça, c'est pas évident. Donc, aujourd'hui, il y a 30 ans, ça aurait été plus difficile. Aujourd'hui, c'est facile un peu plus parce que vous avez maintenant accès à Internet et vous avez des films d'archives, des trucs sur YouTube qui existent maintenant. Alors, observez Fidel Castro, vous pouvez le faire. Le regarder bouger, marcher, regarder sa fameuse gestuelle, il gesticulait beaucoup avec les bras dans ses discours notamment. Deuxièmement, la voix. Il faut savoir reconnaître le timbre de la voix. Troisièmement, le phrasé. Est-ce que, par exemple, la personne zézeille, etc., etc. Dans le cas de Hemingway, qui était un personnage physique très important.
Oui, oui, oui.
Il faisait au-delà de 1m80, il faisait au-delà des 100 kilos. Il se prenait pour un boxeur, un lutteur, un bagarreur, un buveur et tout. Et étonnamment, lorsque vous entendez la voix de Hemingway, il a une voix haut perché, même un petit peu féminisée, avec un accent très marqué de la région de Chicago.
Ben voyons donc.
Alors ça, il faut le présenter, ah, le oui. mettre dans le roman. Qui ouais. plus est, c'est un personnage qui a des problèmes de vue, de vision. Il est à la fois, il est tout à la fois. Il est presbyte, myope, il souffre de
ah, oui.
tout ce que vous voulez. Alors, il a donc un problème avec ses lunettes constamment pour se les faire fabriquer. Donc, Hemingway, ouais. Du fait d'une vue très courte, est également très maladroit dans les apparences. Il se cogne partout, etc., etc. Donc, cet élément-là, il faut savoir l'utiliser. Dans le cas de Che Guevara est un immense intellectuel qui, très jeune, a compris que sa vie pouvait s'arrêter à tout moment en raison de son asthme très, oui. très prononcé. Donc, Guevara est le philosophe. Il est donc l'intellectuel, je dis bien, philosophe, littéraire. Il apprend à parler un français extraordinaire et les gens qui veulent l'entendre parler français, qui entendent cette entrevue, vont n'ont qu'à aller, mettons, sur Internet, et ils font simplement Che Guevara entrevue langue française, et ils vont trouver, par exemple, une entrevue faite avec la télévision suisse-romande
ah, oui.
En 1964, une entrevue qui dure, je crois, 14 ou 15 minutes.
Oh, wow. Alors,
ça vous donne l'étendue ouais. du registre. On apprend mm-hmm. que, par exemple, Hemingway, son œuvre favorite était Le Rouge et le Noir de Stendhal.
Ah, oui.
On apprend toutes sortes de choses. Alors, mm-hmm. ça, il faut savoir s'en servir, et c'est ces trucs-là qu'il faut trouver. C'est ça qui fait la complexité des fois et la durée de la recherche, mais également, c'est le contrat que le romancier passe avec son lectorat en disant « ce que je vais vous livrer, ben voilà, il y a des sources derrière ça, c'est inspiré d'une recherche qui témoigne de je dirais, de l'authenticité et des règles de l'art.
Et quelle aventure humaine, hein. Et il nous reste à peine 2 minutes, mais je voudrais préciser aussi que ce n'est pas la première fois que vous écrivez sur Cuba, hein. Vous avez déjà fait Soleil Noir et Black, c'est oui, comme alors, une espèce de fin de trilogie, là.
C'en est une, parce que dans Soleil Noir, bien sûr, je mets l'accent sur la chute de l'Empire Inca.
Ouais.
Je le ramène, le roman, à l'époque, je le ramène donc à l'époque présente. Ça se passe entre 1533 et 1986, et là-dedans, je raconte d'ailleurs, dans ce roman Soleil Noir, même si l'essentiel se passe au Pérou, en Bolivie, il faut savoir que le Che est mort en Bolivie en 1967, d'ailleurs l'année prochaine, ça fera 50 ans, je trouve le moyen d'entrer ça dans le roman. Et avec Black, je raconte bien sûr toute la question du triangle atlantique, la traite de l'esclavage, particulièrement au 17e en Martinique. Donc, ma trilogie, c'était de dire, voilà, je vous présente une façon de voir notre Amérique, comme on dit souvent,
Amérique,
avec des yeux différents de ceux que l'on pense avoir.
Et en plus, je suis contente, Monsieur Hall, Paul Hall, de dire à nos auditeurs que ces deux livres-là, entre autres Soleil Noir et Black, sont disponibles au SQLA ou à l'INCA. Et nous n'avons plus que le temps de nous dire au revoir, parce qu'évidemment aussi, Les Fantômes de la Sierra Maestra et d'autres livres que je signalerai aux auditeurs à la toute fin de l'émission. Merci beaucoup, Monsieur Hall.
Merci infiniment. C'est un grand plaisir.
Merci mille fois.
Au revoir.
Sur Canal M, vous écoutez Des livres plein les oreilles avec Clotilde Seil et ses invités.
Thank you.
trouble. Toi qui me parlais d'elle, d'elle qui te chantait. Toi qui me parles d'elle, de son nom oublié, de son corps de de cet amour-là, de cet amour mort. Chanson de ma terre lointaine, toi qui parleras d'elle, maintenant disparu. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson. Toi qui ne veux rien dire, toi qui me parles d'elle, et toi qui me dis tout, et toi qui me
Jeanne Moreau, Indiana Song, sans raison, simplement parce que je trouve ça très très beau et que j'avais très envie d'entendre Jeanne Moreau chanter cette chanson-là. Des nouvelles et des livres. Les nominations québécoises au prix des libraires, voilà, on les connaît maintenant depuis quelques semaines et j'avais envie de vous les présenter. Certains livres seront prêts, seront disponibles très bientôt via le SQLA, d'autres le sont déjà. On va faire le tour ensemble. D'abord, « La femme qui fuit » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. Un petit résumé, Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de choses. Cette femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Bordua, Gauvreau et Riopel quand ils signent le refus global. Avec Barbeau, elle fonde une famille. Mais très tôt, elle abandonne ses deux enfants. Pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme à la fois révoltée et révoltante, l'auteur a engagé une détective privée. Les petites et les grandes découvertes n'allaient pas tarder. La femme qui fuit d'Anaïs Barbeau-Lavalette, il est en commande à l'heure actuelle, il est en traitement. Il sera prêt d'ici quelques semaines, c'est certain. Et à ce moment-là, je me ferai un plaisir et un devoir d'inviter Anaïs Barbeau-Lavalette à venir nous en parler. En attendant, si vous voulez lire quelque chose d'Anaïs Barbeau-Lavalette, vous pourriez aller au SQLA. Il y a « Je voudrais qu'on m'efface », et c'est disponible depuis 2011. « Je voudrais qu'on m'efface » d'Anaïs Barbeau-Lavalette. De Martine Delvaux, Blanc dehors. Alors, le petit résumé que j'ai trouvé sur ce livre, c'est une jeune femme qui tombe enceinte, un homme qui s'enfuit et une petite fille qui reste aux prises avec une énigme. À la manière du dessin caché qui apparaît dans les cahiers de jeu des enfants, vous savez, quand on relie entre eux les points numérotés, Martine Delvaux s'applique à réunir dans Blanc dehors le peu qu'elle sait de cet inconnu qui a refusé de devenir son père. C'est un roman, nous dit-on, aussi résolu qu'apaisé, où la romancière parvient à rendre lisible à nouveau une histoire pourtant criblée de blanc, une histoire qui n'est pas encore disponible, mais qui le sera très prochainement. En attendant, je vous recommande de Martine Delvaux, peut-être de jeter une oreille à deux livres. « C'est quand le bonheur ?» enregistré en 2008, et « Les cascadeurs de l'amour n'ont pas droit au doublage » enregistré en 2013. De Daniel Grenier, l'année la plus longue, ça c'est une énorme surprise et tout le monde s'entend pour dire que c'est un grand, grand, grand livre. Un petit résumé, c'est un roman des territoires éternels et des destinées fragiles, des tribus déportées, des guerres civiles, légende d'une autre époque qui cherche à conquérir la nôtre et à la transcender. Ce livre, L'année la plus longue, se nourrit autant de la magie de Benjamin Button, de Fitzgerald, que des fabulations historiques de Ferron. Daniel Grenier qui signe avec ce premier roman une grande épopée américaine qui traverse 3 siècles, une histoire inoubliable de vie trop courte et de vie sans fin. L'année la plus longue, Daniel Grenier, qui a été enregistré également chez Vues et Voix, qui n'est pas encore disponible. C'est une affaire de semaines ou peut-être un mois ou deux en tout cas, mais pas plus. Non, je vous dis des bêtises. Ah oui, c'est ça. En fait, il est d'ici quelques semaines en ce qui concerne l'année la plus longue. Si vous voulez savoir quel genre de plume a Monsieur Grenier, je vous recommande un recueil de nouvelles sorti en version sonore adaptée en 2012. Lu ici chez Vues et Voix, ça s'appelle « Malgré tout, on rit à Saint-Henri ». Voilà, et puis rapidement aussi, à la recherche de New Babylon de Dominique Scali. New Babylon n'existe pas, mais s'il fallait créer cette ville, les duels y seraient permis. Il n'y aurait pas d'autre loi que celle interdisant les hommes de loi et on y aurait constamment le souffle coupé à cause des paysages et ultimement parce qu'on y finirait la gorge tranchée. C'est un espèce de western enlevant qui dépeint avec minutie l'ouest américain des années 1800. Alors je vous le rappelle, New Babylon, à la recherche pardon, de New Babylon de Dominique Scali. Il n'y a rien de Dominique Scali que j'ai trouvé pour vous disponible en livre audio, mais il y aura ce livre-là bientôt. Et puis Marc Séguin, Nord Alice, le narrateur de Nord Alice est un chirurgien trop qualifié pour être exilé dans le Nunavik contemporain. Voici son histoire et voici aussi une histoire d'amour de Marc Séguin, déjà disponible. Nous avons à vous proposer La foi du braconnier ou encore Hollywood. Allez, on y va pour la bande-annonce de la semaine prochaine. Deux garçons à la mer comme M-E, accent grave R-E, c'est signé Guylaine Gay. C'est le roman du parcours avec ses enfants différents, nous dit Guylaine Gay dans un article. C'est un projet qui lui a tenu beaucoup à cœur. Elle, qui ne pensait évidemment jamais écrire un livre de sa vie, elle dit c'est très libérateur et je sais que ce sera un trait d'union avec d'autres parents qui vivent la même chose. Ce sera un témoignage drôle puisque je suis humoriste. Oui, il s'agit bien de Guylaine Gay, l'humoriste. Et ce sera aussi touchant parce que ce n'est pas une vie comme les autres. Les deux garçons de Guylaine sont au début de l'adolescence. Léo, 13 ans, est autiste de haut niveau, donc sans déficience intellectuelle. Il fréquente une école secondaire régulière. Il fait partie d'une classe de 8 élèves touchés par un trouble envahissant du développement, le fameux TED. Un professeur et une éducatrice spécialisée prennent soin d'eux quotidiennement. Et son petit frère, Clovis, 11 ans, est lui autiste non-verbal. Il va dans une école spécialisée. Et à chaque fois qu'elle en a la chance, Guylaine Gay martèle son message sur la place publique, soit les besoins en matière de ressources pour les personnes autistes qui sont criants et les gouvernements qui doivent à tout prix se sensibiliser davantage au sort des familles éprouvées par la maladie. Alors elle tente de doser ses interventions. Elle dit même parfois, je prends des petits breaks pour ne pas que les gens se tannent parce que je sais que ça peut devenir énervant. Mais on comprend que l'amélioration des conditions de vie des bambins handicapés sera toujours son cheval de bataille. D'où ce livre qu'elle a écrit, « Deux garçons à la mer » et que je lui ai demandé de venir nous présenter. Elle a accepté avec grand plaisir. Une autre mère maintenant, mais la mère M-E-R, il s'agit d'une chanson, là encore, que j'avais envie de vous faire entendre, peut-être pour mettre la table à la prochaine chronique, qui sera une chronique sur ma table de chevet. En attendant, voici Alain Leprest.
Sur la mer, ça sert à rien qu'à noyer de boue le gardien du phare. Le phare, il y a beau temps qu'il a plus de gardien. Tout est électrique, il peut bien pleuvoir. La Manche. Il pleut sur la mer, c'est inutile. Ça mouille la pluie, c'est du temps perdu. Les mouettes s'ennuient, blottissent sous les tuiles. Il tombe des cordes et l'eau s'est pendue. Manche. Il pleut sur la mer, et ça sert à rien. À rien et à rien. Mais quoi sert à quoi? Les yeux, c'est leur droit d'avoir du chagrin. Des nuages indiens vident leur carquois. L'été commence sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est imbécile à croire que la mer se pisse dessus, s'aborde ses ports, ses cargos, ses îles. T'as l'air d'un moineau dans mon par-dessus. D'une corneille blanche sur la Manche. Il pleut sur la mer et ça nous ressemble. De l'eau dans de l'eau, c'est nous tout cracher. Et nos yeux fondus au fond de septembre regardent rouler ses larmes gâchées. Qu'une joyeuse avalanche sur la Manche. Il pleut sur la mer, c'est con comme la pluie. Peut-être c'est nous qui sommes à l'envers. L'amour a des nœuds, plein sa mise en pluie. Et ça nous fait marrer. Il pleut sur la mer. Manche.
C'est beau, hein? C'est signé Alain de Prest, « Il pleut sur la mer ». Ça, ce n'est pas un choix par hasard. C'est que la mer dont il parle, la Manche donc, c'est la mer que moi j'ai bien connue quand j'étais petite. Alors quand il évoque là-bas cette image de « il pleut sur la mer », je sais exactement de quelle mer il s'agit. Je sais aussi, c'est ça, toutes les images qu'il y a là-dedans me parlent. C'est pour ça que j'ai choisi cette chanson et... Il y a un livre aussi, toutes les images me parlent aussi dans ce livre-là, alors c'est donc ce qui m'amène sur cette chronique, sur ma table de chevet sur laquelle on va aller directement. J'avais envie de vous parler d'un livre qui est effectivement sur ma table de chevet depuis très longtemps, puis j'ai toujours du mal à le lire parce que, écoutez, il y a toujours au moins deux ou trois livres par semaine qu'il faut que je lise pour préparer cette émission-là. Mais là, je m'y suis mise. Il s'agit du livre « Les années » d'Annie Ernaux. C'est dans, si vous vous souvenez, dans la liste des livres préférés de Pierre Foglia. S'il n'est pas le premier, il est dans les trois premiers en tout cas. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je l'ai acheté de voir que ce livre se passe notamment, l'enfance de cette femme-là, à Sotteville-sur-Mer. Sotteville-sur-Mer, qui est une toute petite ville située sur les hauteurs d'une falaise. Pour descendre au bord de la mer, il faut utiliser des marches. Il y en a, je pense, 225 ou 230, quelque chose du genre. C'est là qu'habitait, écoutez, tout bêtement, un oncle à moi. Alors, je connais Sotteville-sur-Mer, je connais bien toutes les petites villes environnantes, Veules-les-Roses, pour ceux peut-être à qui cela dit quelque chose. Et les années d'Annie Ernaux, eh bien, c'est ça. Ce n'est pas le récit d'une enfance de la sienne, c'est le récit de notre enfance, les années. Ce ne sont pas les souvenirs d'une auteure, ce sont nos souvenirs, même si vous n'êtes pas né en Normandie, même si vous ne connaissez pas cette mer que moi je connais, ce sont vraiment nos souvenirs à nous. Et on retrouve dans chacun des mots de cette femme-là tout ce qui a marqué notre enfance. L'intérêt de ce livre, je vais vous dire, ce sont les images qu'il véhicule, les détails d'une évolution complètement oubliée qui s'étale sur une soixantaine d'années. Il est vrai aussi que lorsque j'étais petite et que j'allais marcher sur cette plage, c'était dans les années dont il est question, les années 60, 70, il est vrai que je m'y reconnais, mais je vous garantis que nous nous y reconnaissons tous, que nous soyons du Québec ou de France. Et cette évolution-là dont elle nous parle, elle est absolument splendide. Je vous lis d'abord, parce que c'est aussi un extrait, de ce livre « Les années » d'Annie Ernaux, la quatrième de couverture. Ensuite, je vous lirai un autre extrait. La photo en noir et blanc d'une petite fille en maillot de bain foncé sur une plage de galets. En fond, des falaises. Elle est assise sur un rocher plat, ses jambes robustes étendues bien droites devant elle, les bras en appui sur le rocher, les yeux fermés, la tête légèrement penchée, souriant. Une épaisse natte brune ramenée par devant, l'autre laissée dans le dos. Tout révèle le désir de poser comme les stars dans Cinémonde ou la publicité d'Ambre solaire, d'échapper à son corps humiliant et sans importance de petite fille. Les cuisses, plus claires, ainsi que le haut des bras, dessinent la forme d'une robe et indiquent le caractère exceptionnel pour cet enfant d'un séjour ou d'une sortie à la mer. La plage est déserte, au dos, août 1949, Sotteville-sur-Mer. Honnêtement, je vous lis ça, puis j'ai des petits frissons au fond de moi. Alors, oui, je vous avais parlé d'un autre extrait, mais le temps file, mes amis. Procurez-vous ce livre, les années, oui, il nous reste un petit peu de temps. L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Les gens ne s'interrogeaient pas sur leur utilité, ils avaient simplement envie de les avoir et souffraient de ne pas assez gagner d'argent pour se les payer immédiatement. Ils s'habituaient à rédiger des chèques, découvraient les facilités de paiement, le crédit Sofinco. On découvrait le cru et le flambé, le steak tartare au poivre, les épices et le ketchup, le poisson pané et la purée en flocons, les petits pois surgelés, les cœurs de palmier, l'aftershave, l'obao dans la baignoire et le canigou pour les chiens. Les coop et familistères faisaient place au supermarché où les clients s'enchantaient de toucher la marchandise avant de l'avoir payée. On se sentait libre, on ne demandait rien à personne. Les gens ne s'ennuyaient pas, il voulait profiter. Alors quand je vous dis que c'est vraiment nos souvenirs aussi à nous, évidemment à une génération, on s'entend, mais même pour la génération qui n'est pas de cette époque-là, ce qu'il, les images, la force des images et tout y est, les parfums, les, effectivement les choses qu'on découvrait pour la première fois de notre vie, comme par exemple de ne pas se faire servir à l'épicerie mais de pouvoir remplir son sac. Ah, c'est vraiment épatant. Les années, Annie Ernaux, et la dernière chronique maintenant, les titres en rafale. Alors d'abord, je voudrais, parce que je vous l'ai promis, vous préciser les titres de Paul Hall, qui était mon invité aujourd'hui pour le livre « Les fantômes de la Sierra Maestra ». Je voudrais vous dire quels titres, quels autres titres sont disponibles. Si vous voulez, entre autres, connaître et lire les deux premiers livres de cette trilogie sur Cuba, puisque « Les fantômes de la Sierra Maestra » vient conclure cette trilogie, les deux premiers étaient « Black » et « Soleil noir ». Dans les deux cas, ils sont disponibles, Black via la SQLA et Soleil Noir via l'Inca. Mais il y a aussi Drakkar, le roman des Vikings, SQLA, L'Enfant Dragon, que vous pouvez lire à l'INCA. Quoi d'autre aussi ? Katana, le roman du Japon, au SQLA, et puis Montferrand 1 et 2, que vous trouverez également au SQLA. Alors, Temps glaciaire, oui, je vous en avais déjà parlé, mais je viens de m'apercevoir. En fait, il était disponible pour le télécharger, mais pas encore sur CD. Maintenant, il l'est. Vous savez, c'est du Fred Vargas, Temps glaciaire. Quel plaisir énorme de retrouver Adamsberg et sa joyeuse bande de flics iconoclastes. Rafraîchissons-nous la mémoire, voyons. Il y a Danglars, Papa Poule, porté sur la Dive Bouteille, Rétancourt, géante, rassurante, qui vaut 5 à agent de sécurité, Vérinck, le versificateur compulsif à la chevelure flamboyante, il y a Vesnay, l'ornithologue, Mercadet, l'hypersomniaque, Mordant, le spécialiste en conte d'Ophée, et Noël, le flic con. Que voulez-vous, il en faut un dans un commissariat. Mais un, pas plus. Et tous ont leur importance et une partition à jouer dans ce temps glaciaire, donc un polar de Fred Vargas. Tétraméron, T-E-T-R-A-M-E-R-O-N, les contes de Soledad de José Carlos Somoza, S-O-M-O-Z-A, dans un mystérieux ermitage aux abords de Madrid, une société occulte se réunit une fois l'an pour raconter des contes cruels. Une jeune collégienne en excursion scolaire se voit impliquée de force dans cet édifiant étalage d'histoire, hantée par la présence du péché, de la tentation, de la luxure et du mal à l'état pur, un rite de passage pour anéantir les paradis de l'enfance. C'est un livre noir, sombre et même, disons-le, un livre d'horreur. Les tribulations du dernier Sigil Massi de Fouad Laroui, L-A-R-O-U-I. Cet homme qui revenait d'Asie où il avait négocié brillamment la vente de produits chimiques marocains. Alors qu'il survolait la mer d'Adaman, il se posa soudain une question dérangeante. Que fais-je ici ? Pourquoi était-il transporté dans les airs à des vitesses hallucinantes ? Arrivé à l'aéroport de Casablanca, il a entrepris de rejoindre la ville à pied, ce qui lui a valu de rentrer chez lui encadré par deux gendarmes, etc., etc., etc. Je ne vous raconte pas les aventures incroyables de cet homme qui décide de changer de vie du jour au lendemain. Bien sûr, des conséquences sur sa vie, mais aussi des conséquences sur la vie de ceux qui l'entourent. Les tribulations du dernier Sigil Massi de Fouad Laroui, L-A-R-O-U-I. Et puis, blague à porc, mais porc comme P-O-R-C, blague à porc, on croirait entendre Gilles Latulippe. Eh bien, c'est du Gilles Latulippe. Gilles Latulippe qui déclarait peu de temps avant sa mort Oh, l'humour, c'est pas comme avant. Puis après, les comiques ne racontent pas les histoires comme avant. Aujourd'hui, il faut être politically correct. Vous racontez une histoire sur les femmes et les groupes féministes vont gueuler. Sur les gays, les groupes de défense des gays vous blâmeront. Même chose pour les lesbiennes. La religion, faut pas toucher à ça. Une histoire sur les juifs et le mouvement juif se fait entendre, même chose. Pour les Italiens, les newfies, les noirs, ça fait 3000 ans qu'on fait rire avec tout ça, sans arrière-pensée, juste pour faire rire. C'est l'intention qui compte. Et mon intention est tout simplement de faire rire. Alors si vous avez envie de rire avec Monsieur la Tulipe, pourquoi pas aller vous chercher au SQLA, blague à port. Et enfin, la promenade au phare de Virginia Woolf. Des vacances sur une île en Écosse, un enfant rêvant d'aller au phare, sa mère, Miss Ramsay, objet de l'admiration de tous. Une expédition au phare 10 ans après, la guerre qui entre-temps a laissé un goût amer, et des survivants qui luttent pour combler le vide laissé par l'absence. Un lecteur nous dit « L'écriture de Virginia Woolf est tellement belle et tellement poétique. Cette histoire est tellement intéressante, dépeinte sur un arrière-fond de guerre mondiale où l'on voit évoluer des personnages et surtout, on se rend plus compte que jamais du temps qui passe et de la fragilité de la vie. » Alors découvrez peut-être ou redécouvrez ce Virginia Woolf, La promenade au phare. La promenade au phare de Virginia Woolf. Voilà, il ne me reste plus que quelques secondes pour vous remercier d'avoir écouté cette émission, remercier Jean-Sébastien Laliberté qui m'a accompagné et mes invités Janine Vanier et Paul Hall pour Les fantômes de la Sierra Maestra, un livre à ne pas manquer. Je vous souhaite une bonne semaine, plein de belles lectures et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde.